Bonjour Marie-Huguette, bonjour Rosie. Je crois qu'il y a deux autres personnes qui sont connectées, mais je ne vois pas les noms apparaître, malheureusement. Ah, il y a mon père, ma mère, Immacula. Bonjour à vous tous. Bonjour Farley. Bonjour à ta maman, la sœur Marie-André. Merci beaucoup Marie-Huguette. Salut Alex, Dieu te bénisse. Peut-être monter un peu l'éclairage. Ça semble un peu sombre. En fait, c'est mon chandail blanc, je pense, qui mélange la caméra. On va y aller comme ça. Bonjour à Rosie. Bonjour à Rachel et aux sœurs qui sont connectées avec toi. Bonjour André. Rosie nous dit que vous êtes à l'écoute, donc bien le bonjour. On continue à prier pour vous. Rachel, quelles sont les sœurs qui sont connectées avec toi ce matin? On va en nommer trois pour sûr, mais s'il y en a d'autres, il faudrait nous dire. Donc, on salue la sœur Auxilia, la sœur Chantal et la sœur Mona. Alors, on est le lundi 22 novembre. On débute notre semaine. Nouvelle thématique. On va cette semaine développer l'enseignement qui a été partagé hier. Oh, Rachel, les sœurs ne sont pas avec toi aujourd'hui? Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à la belle-mère. Shalom. Alors ici à Montréal, aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Il fera un peu plus beau dans les prochains jours, mais pour aujourd'hui, c'est de la pluie. Encore un petit 5 minutes avant qu'on débute. J'allais dire, vous avez le temps d'aller vous chercher un café. Et je suis entré en onde avant de me préparer un café. Je suis certain qu'il va me faire défaut tout au long de la rencontre, mais bon. Bonjour Thérèse. Bonjour Guy. Bonne semaine. Alors, quelques petites annonces tant qu'on a le temps. Vous savez que vous avez un deuxième rendez-vous ce soir, donc avec le pasteur André. C'est le cours sur les fondements chrétiens qui a été enregistré hier et qui va être diffusé ou rediffusé ce soir à 19h. Ça, c'est la première petite annonce. La deuxième, c'est que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche sont en cours. Donc, si vous voulez assister en présentiel au culte de dimanche, Il suffit de nous écrire sur notre courriel, email, et puis ou sinon l'email de l'église, bien entendu. Sinon, de nous appeler, de laisser un message au secrétariat. Ça, c'était la deuxième petite annonce. Troisième annonce, demain soir, c'est donc le cours sur les... non, ou ce soir, c'est pas le cours sur les fondements chrétiens. Ce soir, c'est l'étude biblique sur le livre d'Éphésiens. Je m'excuse. Donc, le cours d'Éphésiens qui a été donné hier après-midi par le pasteur André a lieu ou est rediffusé ce soir à 19 h. Troisième annonce, demain, c'est là alors le cours pour les nouveaux, le cours sur les fondements chrétiens, et vous pouvez y assister sans inscription, et ça ne se fait qu'en présentiel. Donc, on vous invite à être là à l'église en présentiel avec le pasteur André, donc demain soir pour le cours sur les fondements chrétiens. Quatrième petite annonce, simplement vous dire que mercredi, il n'y aura pas de bénédiction matinale. J'ai un rendez-vous à l'extérieur. En fait, c'est pas moi, c'est Néma qui a un rendez-vous à la clinique pour une petite intervention. Elle a une masse qui était apparue il y a quelque temps à une patte, donc on lui fait enlever cette masse-là qui l'a fait boiter depuis un certain temps. Donc mercredi, je ne serai pas là, mais on reprend après ça par la suite. Jeudi, selon l'horaire normal. Alors, les quatre annonces. Ce soir, étude biblique avec le pasteur André sur le cours, sur le livre d'Éphésiens à 19 h. Demain, cours pour les nouveaux ou sur les fondements chrétiens en présentiel uniquement à l'église. Troisième annonce, les inscriptions pour dimanche ont lieu. Vous pouvez déjà y prendre part. Et quatrième annonce, mercredi, il n'y aura donc pas de bénédiction matinale à notre horaire habituel. Bonjour à la sœur Nancy. Good morning, Pastor David. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour à Gérard et à Denise. Bonjour Lucie. Soyez bénis vous aussi. Encore une ou deux minutes et puis on va commencer. Marie-André, bonjour et merci. Pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible déjà dans le passage qu'on étudie cette semaine, c'est dans Jacques au chapitre 1, le verset 5. Jacques 1, verset 5. Alors, si les sœurs sont arrivées, c'est Rachel qui nous dit ça, donc on les salue. Alors, vous aurez été saluées deux fois. Et ces sœurs qui sont saluées deux fois sont Mona, Chantal et Ocilia. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est les trois habituellement qui se connectent avec la sœur Rachel. Donc, on les a saluées tout à l'heure et on reprend. Mais elles n'étaient pas encore en ligne. Donc là, on les resalue ou on les salue de nouveau. Alors, on va prier pour débuter ce matin. Merci Seigneur pour cette semaine qui commence, une semaine que l'on sait préparée, disposée par toi. Et si elle est préparée, c'est que tu y as pensé de toute éternité et tu avais des plans, des désirs, des attentes à notre égard pour cette semaine. Des défis pour nous, oui, mais aussi des occasions de voir ta gloire éclater en faveur de tes enfants. Donc nous prions ce matin que tu puisses nous unir d'une même pensée, que tu puisses ouvrir notre entendement à ta parole, et que celle-ci, Seigneur, puisse trouver en nous un terrain qui t'est propice afin, Seigneur, de s'enraciner profondément en nous, de croître sous l'onction de ton esprit et de porter un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors ce matin, bénis ma sœur, bénis mon frère, et en toute chose que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi nous avons prié dans le merveilleux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette semaine, on va donc approfondir la thématique que j'ai abordée ce dimanche lors de la prédication. Vous savez, on a une dizaine de points qu'on a fait sortir lors de la prédication. On va y aller de façon possiblement un peu plus lente, un peu plus détaillée, mais toujours avec le même passage dans Jacques au chapitre 1, le verset 5. Et la thématique pour cette semaine, c'est en quête de la sagesse ou la quête de la sagesse. Alors, je lis pour vous dans Jacques au chapitre 1, le verset 5, qui nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je répète, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Assurément, on voudrait tous être un peu plus sages, voire grandement plus sages. Assurément, on doit tous convenir au fait que il nous manque très régulièrement une bonne dose de sagesse dans nos décisions, dans nos orientations, dans nos prises de position, dans l'attitude qu'on témoigne, dans notre implication envers Dieu. Régulièrement, si on fait un bilan honnête, on peut arriver à la conclusion qu'effectivement, il nous manquait de la sagesse. Et voilà pourquoi la thématique de cette semaine est importante. De savoir que pour bien travailler pour Dieu, pour bien faire l'œuvre à laquelle on est appelé, et pour être les serviteurs qu'il désire que l'on soit, il nous faut effectivement comprendre sa pensée, comprendre sa prise de position sur toute chose, et ce faisant, acquérir de lui la sagesse qui est sienne. Régulièrement, on veut trop travailler par notre propre réflexion. On veut trop travailler par nos propres efforts, par nos propres conclusions intellectuelles. Mais parfois, si à l'occasion, il y a un match, il y a une corrélation entre nos pensées et les pensées de Dieu, on est obligé d'admettre qu'en raison de notre nature pécheresse, très régulièrement, nos pensées vont plutôt à l'encontre des voies de Dieu. Voilà pourquoi même Paul va dire, voilà ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne voudrais pas faire, voilà ce que je fais. Et ici, il n'est pas en train de dire que Dieu a contourné sa volonté, qu'il est en train de faire en obéissant à Dieu, le contraire de ses désirs. Non, c'est pas de ça que Paul parle. Paul est en train de dire, voilà les bonnes choses que j'aimerais faire, et j'en suis réduit plutôt à faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et ce que je voudrais éviter de faire parce que je sais que ce n'est pas bien devant Dieu, voilà ce que je finis ou ce que j'aboutis à faire. Donc même Paul, le grand apôtre Paul, l'auteur d'une majeure partie plutôt du Nouveau Testament, lui-même arrive à la conclusion qu'il lui manque régulièrement cette pensée, cette jugeote spirituelle, cette sagesse spirituelle qui ne vient que de Dieu. Alors assurément, nous aussi, on peut correspondre à cette même description et être en quête de cette sagesse. Le verset commence en disant « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. » Et c'est ce que nous allons strictement aborder ce matin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous Ici, Jacques plutôt arrive avec une attitude qui n'est pas nécessairement propre de Jacques. Lorsqu'on lit le livre de Jacques, et je l'expliquais hier, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que Jacques est direct. Jacques ne tombe pas habituellement dans les fla-fla et à essayer de dire les choses doucement. Jacques t'expose la vérité droit devant les yeux. À un moment donné, il va dire, regarde, si tu plonges ton regard dans la parole de Dieu et que tu t'en détournes et que tu ne fais pas ce qu'elle a dit, tu es comme quelqu'un qui se pointe devant un miroir, qui détourne le visage et qui ne se rappelle pas quelle était son allure. Il dit ça n'a aucun sens. Il expose son lecteur à un non-sens qui est pourtant régulièrement le nôtre. Il va dire à un autre endroit, regarde, essaie de me prouver que tu as la foi sans manifester d'œuvre, je vais te dire que c'est impossible. Moi, je vais te prouver ma foi à travers mes œuvres. Encore là, il place son lecteur ou ses auditeurs face à des réalités qu'on appellerait en France la palissade. Donc des réalités simples, concrètes, évidentes et qu'on ne peut pas contredire. Jacques va dire, regarde, tu ne peux pas prétendre avoir mis ton regard dans la parole de Dieu, t'en détourner et ne pas comprendre ce que la parole de Dieu dit sur ton état. C'est comme si tu te regardais dans le miroir et que tu ne voyais pas que tu avais une trace de larmes séchées de la nuit ou que tu as quelque chose qui traîne sur le pourtour de ta moustache ou de ta barbe, que tu n'as pas vu que tes cheveux sont mal coiffés. Il dit, c'est impossible. Si tu regardes dans le miroir, par conséquent, tu vas voir ton état. Alors, Jacques a l'habitude de lancer les choses au regard des gens. Et ici, peut-être parce que c'est le début de son texte, il va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. On sait tous avec un peu de calcul et on sait tous avec un peu de réflexion, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'il nous manque à tous une dose de sagesse. Qu'on a tous des occasions dans lesquelles on aimerait reprendre un peu, retourner un peu dans le passé pour dire je ferais les choses différemment. À chaque fois qu'on a ce sentiment qu'on aurait dû faire les choses différemment, c'est effectivement parce qu'il nous a manqué de la sagesse de Dieu ou parce qu'on n'a pas agi selon la sagesse de Dieu. Alors, des fois, c'est un manque de connaissance de la sagesse qui émane de Dieu, mais parfois, c'est aussi un manque d'obéissance à la sagesse de Dieu. Et là, ça serait encore le même principe que de plonger son regard dans la parole et de ne pas faire ce que la parole de Dieu nous dit, ou de ne pas comprendre l'état dans lequel on est. Lorsqu'on requiert la sagesse de Dieu, chose qu'on devrait tous faire, eh bien, ça serait pour l'appliquer de façon concrète et évidente dans notre vie. Alors ici, on doit dire que ce message s'adresse à tous. Si quelqu'un d'entre vous, c'était tout simplement pour que la personne puisse arriver à une décision. Regardez bien qu'il ne dit pas, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, que les autres lui inculquent, ou que les autres la demandent à Dieu pour lui. Non, la quête de sagesse est une quête personnelle. Si je manque de sagesse, je dois désirer et partir à la quête de cette sagesse pour l'obtenir. La sagesse n'est pas un don spirituel qui tombe sur toi de façon inopinée sans que tu ne l'aies cherché. Ici, Jacques est très clair. S'il vous en manque, demandez-la. Donc, il doit y avoir ce constat, il doit y avoir ce désir de celui qui est en quête d'obtenir la sagesse. C'est un peu comme quelqu'un qui croit qu'il a ce qui lui est nécessaire. Mais s'il est convaincu d'avoir pour sa lampe, prenons la parabole des vierges folles et sages, vous savez, ces 5 vierges qui ont rempli leur réservoir d'huile, les 5 autres qu'on appelle les folles, qui n'ont pas rempli leur réservoir d'huile, et quand le fiancé arrive et qu'on doit aller le rejoindre sur la route et le conduire jusqu'à la maison, les 5 sages, les 5 vierges sages sont tout à fait équipées pour le moment, pour les demandes du moment, alors que les cinq vierges folles, il leur manque d'huile. Et on se rend compte que c'est à elles la responsabilité de ce manque d'huile, que ce n'est pas que les autres n'ont pas partagé, et que ce n'est pas non plus aux autres de donner l'huile qu'elles auraient besoin. C'est à elles d'aller s'en procurer aux marchands, d'aller s'en procurer là où elles peuvent effectivement l'acquérir. Et pour la sagesse, c'est la même chose. On pourrait prier les uns pour les autres en demandant « Seigneur, donne à ma sœur la sagesse ». Je suppose qu'il y a bien des époux et des épouses qui le font à l'égard de leur conjoint en disant « Oh, Seigneur, si tu pouvais donner un peu de sagesse à mon mari ». Et le mari de son côté, dans son culte personnel, qui est probablement en train de dire « Ah, Seigneur, si tu pouvais donner un peu de sagesse à ma femme », ce n'est pas le genre de prière à faire. La quête de la sagesse, c'est une quête tout à fait personnelle. C'est une décision de notre part d'aller chercher et d'acquérir cette sagesse. Et c'est un message qui s'adresse à tous. Alors, durant cette semaine, ne pense pas à ton mari, ne pense pas à ton épouse, ne pense pas à ton fils, ta fille, ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à tel ou tel frère ou telle sœur dans l'Église qui, à tes yeux, aurait besoin de sagesse. Nous en avons tous besoin. On est parti d'un axiome, on est parti d'un fait, comme quoi même Paul, qui était probablement un des plus grands de l'histoire de l'Église, va lui-même, malgré tout, arriver au constat qu'il est en nécessité de l'aide de Dieu, il est en nécessité de la sagesse qui émane de Dieu. Alors ce message, premier point, le message de la sagesse s'adresse à tous. S'il s'adresse à tous, c'est qu'il s'adresse, peu importe ton rang social, peu importe ton vécu, peu importe le nombre d'années que tu as vécu, peu importe les éloges qu'on fait à ton égard, peu importe le côté intellectuel que tu as ou que tu n'as pas, nous sommes tous appelés à entrer en quête de cette sagesse. Alors cette semaine, pense à toi, pense à ton besoin de sagesse, cherche la sagesse pour toi. De toute manière, comme on l'a dit, tu ne peux pas la chercher pour ton voisin. Et il va poursuivre en disant, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Et je suppose que pour commencer la semaine, ça serait important de dire ce qu'est la sagesse. On l'expliquait hier, la sagesse, ce n'est pas une question de connaissance. Ce n'est pas une question de bagage intellectuel. J'ai un doctorat, donc je suis plus sage que les autres. Non, tu as plus de connaissances que les autres, mais ça ne veut pas dire que tu as plus de sagesse que les autres. Avoir de l'expérience, c'est avoir du vécu, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as du vécu, que tu as nécessairement de la sagesse. La sagesse, lorsqu'on parle d'une sagesse qui est parfaite, d'une sagesse qui est excellente et à laquelle on doit tous tendre, c'est donc qu'on est en train de chercher la pensée de Dieu. La sagesse, en fait, c'est la pensée de Dieu sur toute chose. Le conseil de Dieu sur toute chose. En d'autres mots, qu'est-ce que pense Dieu sur telle situation? Lorsque j'arrive à définir quelle est la pensée de Dieu par rapport à une telle situation, j'acquiers ou je viens d'identifier la sagesse de Dieu. Savoir non seulement identifier une situation, mais comment y répondre. Comment je dois me positionner par rapport à tel fait, à telle situation, à telle circonstance. Trop de personnes et trop de chrétiens, y compris, mènent leur vie sans se soucier de quelle est la pensée de Dieu. J'ai souvent eu l'occasion de vous dire que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons été créés, chacun d'entre nous, individuellement, pour un propos. Un propos qui est, ou un objectif, un mandat qui est propre à chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que le mandat que moi j'ai n'est pas le même que celui de la personne qui se trouverait à mes côtés. Daphné a un mandat, moi j'en ai un. On a des mandats qui sont connexes, on a des mandats qui sont peut-être collectifs, mais de ou communs, mais de surcroît à cela, on a aussi des appels tout particuliers sur notre vie. Donc Dieu a créé Daphné avec un objectif, avec un plan, avec un propos, et plan, propos, objectif qu'elle doit remplir, mais qu'elle doit bien remplir. Et pour bien le remplir, il faut savoir qu'est-ce que Dieu entend par bien. De surcroît cela, moi, j'ai moi-même mes objectifs personnels, les objectifs que Dieu a fixés sur mon existence pour moi. J'ai moi-même un appel de Dieu sur ma vie, des buts, des propos, des desseins pour lesquels, de toute éternité, il voulait me créer. Et lorsqu'il m'a créé, il m'a créé pour que je remplisse ce mandat. Mais si je veux entendre qu'aux yeux de Dieu, j'ai bien fait mon travail, si je veux entendre de la part du Seigneur, lorsque je vais rentrer dans l'éternité, que j'ai été un bon serviteur, encore faut-il que je sache comment il voulait que je serve. Parce que sinon, je pourrais être en train de m'éparpiller à faire un tas de choses, mais rater l'objectif que Dieu avait pour moi. Et ce faisant, si je n'ai pas rempli mon rôle, je n'ai donc pas à être appelé un bon serviteur. De surcroît à cela, je pourrais être en train de faire ce que Dieu veut. Mais suis-je en train de le faire de la bonne manière? Suis-je en train de le faire pour les bonnes raisons? Suis-je en train de démontrer le cœur qui se doit quant à l'ouvrage qu'il m'a demandé d'accomplir? Et tout ça, ça va me prendre de connaître la pensée de Dieu par rapport à cette œuvre. Et voilà pourquoi, lorsque on parle du conseil de Dieu, ou lorsqu'on parle de la sagesse plutôt, c'est de savoir mener sa vie selon le conseil de Dieu. Savoir mener mon existence d'après la pensée de Dieu. Et ça, ça doit être une prérogative quotidienne pour chacun d'entre nous. On devrait se poser la question à tous les jours. Voici, Seigneur, cette nouvelle journée qui débute. Que veux-tu que je fasse? Et comment veux-tu que je le fasse? La plupart du temps, lorsque on travaille pour quelqu'un, on arrive au boulot le matin et la personne qui est en charge de notre travail va nous affecter à une tâche et va nous dire, voici ce que je veux que tu fasses. Et souvent, va nous expliquer, voici comment je veux que tu le fasses. Voici le temps dans lequel je veux que tu le fasses. D'ici ce soir, je voudrais que tu aies fait telle chose. Et si nous, on commence à faire autre chose, on passe à côté du propos, de l'objectif, qui était notre mandat ou notre travail. Donc, il est important de se tourner vers Dieu et de lui dire, Seigneur, qu'as-tu à dire sur moi? Qu'as-tu à dire sur la journée qui débute? Que veux-tu que je sache pour cette journée? Que veux-tu que j'applique pour cette journée? On devrait même pousser à demander à Dieu, « Regarde Seigneur, par rapport au travail que j'ai fait hier, que je dois peut-être reproduire aujourd'hui, où dois-je m'améliorer? Quels sont ces secteurs dans lesquels je peux mieux faire? » Et c'est une question par rapport à toutes les facettes de notre existence. Pas simplement l'œuvre à proprement dite qu'on fait pour Dieu ou pas le travail à proprement dit qu'on fait pour l'avancement du royaume de Dieu, mais ça peut être dans nos relations interpersonnelles. Demander à Dieu, mais Seigneur, dans mon rôle d'époux, qu'as-tu à dire? Ai-je bien fait les choses? Pour les sœurs, dans votre rôle d'épouse, avez-vous bien fait les choses? Dans les rôles de parents, avons-nous bien fait les choses? Dans les rôles d'enfants, nous sommes-nous comportés adéquatement? La parole de Dieu va dire « Honore ton père et ta mère ». Mais que veut dire « honorer » si je ne cherche pas à comprendre la pensée de Dieu par rapport au fait d'honorer son père et sa mère? Je peux faire un tas de choses sans les honorer. Je peux me faire croire à moi que j'ai honoré mon père et ma mère sans pourtant l'avoir fait. Quand la parole de Dieu nous dit « Marie, aimez vos femmes comme vous-même », lorsqu'il dit « comme vous-même », c'est justement pour que nous comprenions comment on est supposé aimer nos épouses. Donc, de les aimer comme on s'aime soi-même, comme on prend soin de notre propre personne, comme on veille à se protéger, à se fortifier, à se mettre en forme, à se vêtir, à se donner des soins. Mais cette même chose, Dieu dit, puisque tu sais le faire à ton égard, sache le faire aussi à l'égard de ton épouse. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Et on devrait effectivement demander au Seigneur, dans tous les rôles qu'on a, rôle d'employé, rôle de supérieur, rôle de conducteur, rôle d'assistant, rôle d'épouse, d'époux, rôle de parent, rôle de grand-parent, rôle d'enfant, rôle de petit-enfant, rôle d'oncle, rôle de neveu. Dans toutes ces facettes de notre existence, nous devrions avoir à cœur de demander à Dieu ce qu'il pense qu'on devrait faire. Et hier, je citais deux versets importants. Dans Psaume 111, le verset 10, et dans Proverbe 9, 10. Je répète les deux références. Psaume 111, verset 10, Proverbe 9, 10. Les deux versets écrits par un papa et un fils. Psaume est écrit par le roi David, Proverbe est écrit par son fils Salomon. David est considéré comme un homme selon le cœur de l'Éternel. Ça veut dire que la façon dont il agit, comment il se comporte, de quoi est fait son cœur, le plus profond de son être, ça plaît à Dieu. Salomon, en contrepartie, lui est considéré comme l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité. Comme s'il n'y a personne d'autre qui a eu autant de sagesse incorporée en une seule personne que lui pouvait l'avoir. Et les deux vont nous dire une phrase identique. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On n'est pas obligé de retourner dans l'explication du mot crainte, comme quoi ici on ne parle pas de la peur, de la terreur, d'être terrorisé par Dieu. Certains le sont. C'est l'image du père fouettard qui est là avec son martinet, avec son bâton, avec son fouet. Et dès qu'on fait quelque chose de mal, il nous envoie un coup. Il y a des gens qui ont l'image de Dieu qui est comme ça. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, en fait, on parle d'un respect profond, d'une vénération profonde envers Dieu. Et non d'une terreur qu'on pourrait ressentir envers lui. Donc ici, David et Salomon, plus tard, vont nous dire tous deux que pour obtenir la sagesse, pour acquérir la sagesse, la première étape, c'est de craindre Dieu. D'avoir ce désir d'honorer profondément Dieu. En fait, la crainte de Dieu, lorsqu'on le traduit avec des termes peut-être un peu plus contemporains, on parlerait de vénérer Dieu. De lui vouer un respect hors norme, un respect outrepassant le respect qu'on porte habituellement envers quelqu'un. C'est comme le plus haut niveau de respect, d'honneur qu'on peut afficher envers quelqu'un. Et c'est très logique quand on y pense que la sagesse s'acquiert tout d'abord par le respect qu'on voue à Dieu. La sagesse va nous montrer ce que Dieu veut qu'on fasse, comment Dieu veut qu'on se comporte, quelles sont les positions qu'il veut qu'on prenne, comment il veut qu'on se positionne par rapport à quelqu'un ou par rapport à un fait ou par rapport à une situation. Mais si je ne respecte pas Dieu, je ne vais pas m'intéresser à son conseil. Si je n'ai pas pour Dieu un profond respect, je ne vais pas m'interroger à savoir, mais qu'est-ce que Dieu pense? Si on se balance de quelqu'un, on se balance aussi de son opinion. Lorsque quelqu'un a peu d'effet sur nous, lorsque quelqu'un suscite peu de respect chez nous, ben en conséquent, régulièrement, on va avoir peu d'intérêt à savoir ce qu'il pense. Par contre, lorsque quelqu'un nous est cher, ben son opinion compte. Et lorsque cette personne nous est très, très chère, ben on veut savoir qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Pourquoi? Parce que cette personne nous étant très, très chère, on veut lui plaire. Et voilà pourquoi, effectivement, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Tu ne peux pas acquérir la sagesse si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas acquérir la sagesse si à la base, tu ne veux pas être obéissant à Dieu. Honorer Dieu, ça veut dire faire ce qu'il nous demande de faire. Faire les choses de la manière qu'il veut qu'on fasse. Je ne sais pas si vous avez déjà été directeur d'une équipe ou dirigeant d'une équipe ou responsable d'un groupe de personnes, mais quand vous donnez des indications sur comment faire une chose et que les gens font autrement, la première fois, ça va. La deuxième fois, on commence à dire, mais il me semble que je t'avais expliqué. Je te réexplique pour que tu comprennes. La troisième fois, ça devient pénible. Et parfois, lorsque la chose revient et revient et revient, ben on peut avoir tendance à dire aussi, je n'utiliserai plus cette personne ou je ne la veux plus dans mon équipe. On voit ça régulièrement dans une équipe sportive. Quand il y a quelqu'un qui, au lieu d'adopter le plan de match collectif, dit « moi, je vais faire autrement », ben à un moment donné, on retire régulièrement cette personne de l'équipe. Pourquoi? Parce que son travail ne va pas dans le sens qui a été fixé, dans l'objectif qui a été fixé. Et son travail peut même aller à l'encontre des objectifs qui avaient été fixés. Alors cette personne peut être écartée. Pensez à Dieu qui nous regarde régulièrement et qui dit, mais regarde, mes instructions te sont disponibles, ma pensée t'est disponible, ma sagesse t'est disponible, et malgré tout, je te l'expose, je te la partage, et tu ne l'appliques pas. Combien de fois on va entendre des prédications, on va entendre des enseignements, et on est ému sur le moment, mais on ne les retient pas pour les appliquer une fois sorti de l'église. Combien de fois on est soufflé par des versets qui nous sont partagés lors d'un enseignement, mais ça a un effet simplement ponctuel sur le moment, au lieu de les faire nôtres, de les enraciner en nous profondément et de bâtir sur ces vérités, elles nous ont émus pendant un moment, puis le lendemain, on est retourné à ce qu'on faisait avant, et on se moque bien de la prédication qui nous aurait été donnée hier. Qu'est-ce que je fais avec la sagesse que Dieu me communique? Le respect que je vais donner à la parole de Dieu, le respect que je vais donner à Dieu, va déterminer si la sagesse va prendre sa place dans ma vie ou non. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, si tu aimes profondément Dieu, tu vas aussi chercher à lui plaire et à faire ce qu'il veut et à chercher à connaître ce qu'il veut de toi. Alors voilà ce qu'on avait pour ce matin. Si quelqu'un d'entre vous, et c'est nous tous, manque de sagesse, manque du conseil de Dieu, manque de la pensée de Dieu, qu'on sache que la première étape, c'est de craindre Dieu. Si je n'honore pas Dieu, je vais me balancer de ce qu'il va penser et de ce qu'il va prescrire. Mais si j'honore Dieu, si j'aime Dieu profondément, si je crains Dieu, alors je vais avoir l'intérêt très profond de connaître sa pensée et d'adapter ma vie à sa pensée. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Merci Seigneur pour ce message, merci pour ce début de semaine dans lequel tu nous parles Seigneur de la sagesse, de la quête de la sagesse, l'intérêt pour nous tous de chercher à connaître ta pensée, à connaître ta vision pour nous. Seigneur, on veut mener notre vie comme tu le désires. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à tes plans, à ta volonté, à ta pensée, pour bien faire les choses. Alors, je prie pour moi, Seigneur, parce que on a compris ce matin que nous sommes les seuls responsables de notre quête de sagesse. Je prie pour moi et je m'engage, Seigneur, à chercher ta sagesse. Je m'engage, Seigneur, à partir dans cette quête toujours plus profonde de la sagesse qui émane de toi. Et je veux, Seigneur, t'honorer parce que je t'aime. Je veux t'honorer, Seigneur, en faisant ta volonté. Je veux t'honorer en désirant faire ta volonté. Je veux t'honorer, Seigneur, en cherchant à connaître ta volonté. Et je prie, Seigneur, que tu m'accordes ton conseil. Assurément, Seigneur, mes frères et mes sœurs auront, pour la plupart, fait cette même prière, puisque nous sommes en quête personnelle, individuelle, respective plutôt, de cette sagesse. Alors, Seigneur, entends et agrée la prière de tes enfants. Bénis cette journée. Permets-nous d'acquérir dans les prochaines heures un peu plus de sagesse qu'on en avait ce matin en nous levant, et que le travail de nos mains t'honore, que les paroles de nos bouches t'honorent, que nos vies telles qu'elles sont vécues t'honorent. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà quel était l'enseignement pour ce matin. On vous rappelle quelques petites annonces qu'on a faites en début de séance. Donc ce soir, il y a la reprise, la rediffusion plutôt, du cours sur le livre aux Éphésiens qui est donné par le pasteur André. C'est donné le dimanche après-midi. Vous avez le droit d'y assister sans inscription. Sinon, vous pouvez voir la diffusion, bien entendu, sur nos plateformes Internet, dont Facebook. Deuxième petite annonce, demain soir, il y a cours pour les nouveaux ou cours sur les fondements chrétiens. Et ce cours-là n'est donné qu'en présentiel. Il n'est aucunement disponible sur les plateformes Internet. Donc, ceux qui veulent y prendre part, simplement vous présenter à l'église un peu avant 19h, puisque le cours débute à 19h. Et là encore, pas besoin d'inscription. Troisième annonce, mercredi matin, il n'y aura pas de bénédiction matinale. Un rendez-vous pour une petite chirurgie pour Néma. Donc, mercredi matin, je suis à l'extérieur. Je ne pourrai pas être là, donc, pour l'enseignement. Et puis, dernière annonce, les inscriptions pour le culte de dimanche en présentiel ont cours depuis hier matin, bien entendu. Donc, ceux qui veulent s'inscrire pour l'assemblée de dimanche, pour y assister en présentiel, vous nous écrivez à l'adresse courriel régulière de l'Église ou vous appelez au numéro de téléphone de l'Église et vous laissez un court message et on vous rappelle pour confirmer votre inscription. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, soyez sages davantage et courez vers la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.